Radio Kapi. Oh, Kapi.
C'est confirmé, la maladie qui sévit à Mungwalu en Ituri est bel et bien celle du virus d'Ebola. Le gouvernement a officiellement déclaré hier la 17e épidémie dans le pays. Outre Mungwalu, les zones de santé de Rwampara et Bunia sont aussi touchées. Le gouvernement annonce déjà une série de mesures tout en appelant la population à la vigilance. Les jeunes, particulièrement les étudiants, appelés à privilégier les débats constructifs et pacifiques autour d'une éventuelle réforme de la Constitution, cela sans tomber dans les manipulations politiciennes. L'appel est de la représentation nationale des étudiants de la RDC. Message donné hier à Kinshasa au lancement d'une campagne dénommée « La jeunesse parle Constitution ». Comme invité, Jean-Michel Laboncou, coordonnateur du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga. Il nous parle de l'évolution des travaux dans le cadre de ce projet. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement déclaré hier vendredi 15 mai la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé de Rwampara, Mungwalu et Bunia dans la province de l'Ituri. Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, les analyses de l'Institut national de recherche biomédicale INARBE ont confirmé 8 cas positifs sur 13 échantillons prélevés. Il s'agit de la souche Bundi-Bugyo. À ce jour, 246 cas suspects et 30-80 décès ont été notifiés, dont 4 ont testé positifs. Ces informations de Suzanne Zobotra sont rendues ici par Jean Gandou.
Dans un communiqué officiel, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures urgentes, notamment l'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge gratuite et l'isolement strict des cas suspects ou confirmés, également le déploiement des équipes d'intervention rapide et des médicaments essentiels et l'intensification de la communication sur les risques et engagements communautaires. Le ministre appelle la population à rester vigilante, à signaler tout cas suspect et à éviter des contacts physiques avec les malades ou les personnes décédées. Un numéro vert, le 151, est disponible pour toute information utile. Ensemble, par la vigilance, la collaboration et la solidarité, nous vaincrons encore une fois cette épidémie, a déclaré le ministre.
Restons en Ituri. Les casques bleus de la MONUSCO et les FARDC poursuivent leurs opérations conjointes menées dans le cadre de l'opération Nyundo 2. Objectif, assurer la protection des civils dans plusieurs zones affectées par l'insécurité, notamment dans le territoire de Djougou. Ces opérations comprennent des patrouilles de longue portée, des patrouilles de domination de zone, ainsi que des activités conduites à partir des bases opérationnelles mobiles déployées dans la région. Suivez des précisions avec le lieutenant-colonel Charles Idiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO. Il est ici au micro de Marc Marofimbo.
Le 11 mai 2026, dans le cadre de l'opération Nyundo 2, les casques bleus de la MONUSCO, en coordination avec la FARDC, ont mené plusieurs opérations conjointes dans le territoire de Djougou, en Ituri. Ces opérations comprenaient des patrouilles de longue portée, des patrouilles de présence, ainsi que des activités menées à partir des bases opérationnelles mobiles déployées dans la région afin de renforcer la sécurité, dissuader les groupes armés et protéger les populations civiles. Le même jour, à Komanda, le contingent indonésien a conduit des patrouilles vers Maitatu et l'école de Kimbaseke dans le cadre des activités Safe School afin de sécuriser les élèves et les enseignants. Le 9 mai, les casques bleus avaient également assuré la sécurisation de la messe dominicale à l'église catholique de Basili. Par ailleurs, le 12 mai 2026, à Kassigny, la MONUSCO est intervenue après la découverte d'un engin non explosé. Une coordination avec les autorités locales et les FADC a permis de sécuriser la zone, de baliser les espaces dangereux et de sensibiliser les communautés afin de prévenir tout risque pour les populations civiles.
Et puis lutte contre les dangers des explosifs et engins de guerre dans la ville de Beni au Nord Kivu. Où les militaires des FARDC ont bouclé hier vendredi la première phase d'une série de formations à la lutte antimine, activité organisée par UNMAS, unité de lutte antimine de la MONUSCO. L'objectif de ces formations, axé sur le transfert de compétences, est de permettre aux militaires d'identifier, d'analyser et de documenter les menaces liées aux engins explosifs non explosés afin de mieux protéger les populations. Ce vendredi, les apprenants ont reçu leur brevet de participation. Depuis Beni, Marc Marofimbo nous apporte un peu plus de précisions.
Deux semaines ont suffi pour outiller ces militaires des FARDC venus de différentes unités de l'armée congolaise. Encadrés par les instructeurs de UNMAS de la MONUSCO, ils ont été formés aux techniques de lutte contre les engins explosifs de guerre. Une formation jugée très utile par les participants. Sylvestre Paloukou, l'un des participants qui a reçu ce vendredi son brevet de fin de formation, appelle le gouvernement à les aider à mettre en pratique les techniques apprises pour la sécurisation des populations.
La formation est vraiment salutaire, une première pour les FARDC. On a suivi les cours selon les normes internationales. Surtout, on va demander l'accompagnement du gouvernement. On a étudié tout, mais maintenant, le gouvernement doit faire sa part d'accompagnement en dotant des outils nécessaires pour éradiquer tous les risques possibles. À ce niveau, nous sommes déjà spécialisés à identifier une mine, les genres de menaces. On peut aussi documenter, on peut aussi marquer pour sauver les vies humaines. Maintenant, c'est la deuxième phase qui sera plus décisive, qui va maintenant nous permettre et nous autoriser à chaque fois détruire.
Au cours de cette formation, plusieurs modules ont été abordés. Parmi eux, les écourismes appliqués aux opérations de déminage et de démolition, la connaissance des munitions, l'organisation technique d'un chantier de déminage, la sensibilisation aux droits de l'homme ainsi que les techniques de marquage des engins non explosés en zone minée ou polluée. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Les représentants du gouvernement des FARDC, de Wazalendo et de la société civile ont débattu de la question de Wazalendo hier vendredi à Kinshasa. Cela se passait autour d'un café politique organisé par la dynamique des politologues d'IPOL avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert. Les experts ont passé en revue plusieurs sujets tels que le cadre légal pour ces groupes d'autodéfense, les défis liés à leur encadrement et à leur financement, également les risques de fragmentation de l'autorité de l'État ainsi que des perspectives de démobilisation et de stabilisation après la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Que retenir à ce sujet, Blachinda Nikambala?
Face à la crise dans l'Est de la RDC, les Wazalendo soutiennent les FARDC contre les M23. Mais cette mobilisation soulève des inquiétudes sur l'autorité de l'État, les droits humains et l'absence d'un cadre légal clair. Constantin Grand de la Fondation Friedrich Ebert a indiqué que les échanges ont porté sur le statut légal des Wazalendo, leur prise en charge et leur avenir après la guerre.
Nous avons pris l'opportunité aujourd'hui de discuter sur certains défis autour de cette question, notamment le cadre légal, le modèle économique de leur survie ou de la prise en charge, jusqu'à la question, qu'est-ce qui se passe avec les combattants après intégrés dans les forces armées officielles, ou qu'est-ce qui se passe après? Donc, le débat aujourd'hui était riche, était intéressant, très dynamique aussi.
De son côté, Elodie Tamuzinda, coordonnatrice de l'ESBEL Dignité Humaine, a dénoncé le manque de coordination sur le terrain et les abus contre les civils.
La coordination sur terrain pose problème, les commandements posent problème, il y a des situations que les militaires aussi évoquent contre eux, la loi est là, mais qui n'a pas de mesures d'application et qui n'est pas appliquée. Alors, ceux qui subissent les conséquences de ce cadre juridique qui a des faiblesses, beaucoup de faiblesses, c'est la population.
Une étude présentée durant la rencontre recommande au gouvernement de clarifier les statuts des Wazalendo afin d'éviter les abus et de renforcer l'autorité de l'État.
Parlons de cet appel. Les discours de haine n'ont pas de place au sein des communautés vivant sur toute l'étendue du territoire et de la ville d'Ouvira. C'est le message véhiculé par les autorités locales afin de promouvoir le vivre ensemble entre les communautés. Le collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu pour la paix salue cette initiative. Il exige toutefois quelques mesures d'accompagnement comme la mise en place du mécanisme de suivi de cessez-le-feu. Jean Kassami pour les détails.
Le vivre ensemble entre les communautés fait partie des éléments majeurs pour la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la RDC. Les chefs des cités de Sangue dans les territoires d'Ouvira sensibilisent ses administrés à bannir les discours de haine pour contribuer au retour de la paix. Mabiswa Selemani Jean de Dieu, chef des cités de Sangue.
Nous sommes toujours en train de prêcher la cohésion sociale et interdire le règlement des comptes.
Pour sa part, le collectif des organisations de la société civile pour la paix sollicite l'implication de la communauté nationale et internationale pour tordre les coups au discours de haine. Emmanuel Benguehia, co-modérateur du collectif.
Le collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu pour la paix exige la protection des civils à travers les mécanismes de suivi du cessez-le-feu et le déploiement urgent d'une unité de la CIRGL et de la MONUSCO pour s'assurer du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
Plusieurs activistes des droits de l'homme au Sud Kivu encouragent cette initiative des autorités locales. Bukavu, vous, Jean Kassami, Radio Okapi.
La représentation nationale des étudiants de la République démocratique du Congo appelle les jeunes, particulièrement les étudiants, à privilégier des débats constructifs et pacifiques autour d'une éventuelle réforme constitutionnelle, cela sans se laisser manipuler par les intérêts partisans des acteurs politiques. Cet appel a été lancé hier vendredi à Kinshasa par Alex Bukasa, président des étudiants de la RDC. C'est à l'occasion du lancement de la campagne citoyenne dénommée « La jeunesse parle constitution ». Il s'agit d'une initiative de l'acteur politique Serge Etikoum Anza, membre de l'Union Sacrée, en collaboration avec la coordination estudiantine. La campagne vise à créer un cadre d'expression citoyenne permettant aux jeunes Congolais de contribuer activement au débat national sur la réforme constitutionnelle, cela à travers leurs attentes, préoccupations et propositions. L'activité a réuni des centaines d'étudiants issus de plusieurs institutions d'enseignement supérieur de Kinshasa autour des professeurs et spécialistes en droit constitutionnel. Le point avec Grassam Zati.
Pour l'initiateur de cette campagne, dans un contexte marqué par les débats autour de la Constitution, il est important d'impliquer davantage la jeunesse congolaise dans les discussions sur l'avenir du pays. Serge Etinkoum Anza.
Nous sommes persuadés que la jeunesse congolaise, unie dans sa diversité, peut converger sur bien des sujets et apporter une contribution décisive à l'effort de la reconstruction de notre nation.
De son côté, Alex Bukasa, président des étudiants de la RDC, appelle les jeunes à plus de responsabilités dans ces débats.
Les débats sur faut-il changer, réviser ou pas carrément toucher. La Constitution doit être portée avec argument fondé sur l'intérêt supérieur du peuple congolais, tout en n'oubliant pas l'histoire de notre pays.
Les étudiants interrogés se disent ouverts au débat.
La Constitution, ça peut ou pas changer, mais d'abord nous devons avoir une connaissance sur quelque chose.
Je les appelle à réfléchir vraiment d'une manière démocratique, pas seulement pour nous jeunes qui nous sommes aujourd'hui, parce que après nous, il y aura encore des jeunes.
D'après les organisateurs, cette campagne, qui prévoit notamment des débats, des meetings et des consultations populaires, sera progressivement étendue dans plusieurs provinces du pays.
Un atelier consacré à la validation du plan d'action opérationnel du Service national de protection sociale des groupes vulnérables a été organisé hier vendredi à Kinshasa par le ministère des Affaires sociales. Au terme des travaux, le document a été adopté et devra servir de cadre d'orientation pour renforcer les interventions sociales destinées aux populations les plus fragiles. Christian Makassinga nous fait le point.
Pour les organisateurs, cet atelier visait à doter les services nationaux de protection sociale de groupes vulnérables d'un cadre opérationnel destiné à améliorer l'efficacité des interventions sociales. Réunis au centre Nganda, dans la commune de Kitambo, experts, cadres administratifs et partenaires ont validé ces plans, ouvrant ainsi une nouvelle étape pour ces services. C'est ce qu'explique Made Kibuku, l'un des experts ayant présenté les documents.
C'est en fait un service opérationnel. Pendant longtemps, on n'avait pas un plan d'action opérationnelle. Aujourd'hui, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons invité les acteurs du secteur de la protection sociale pour la validation de cet outil important pour le pilotage de la gouvernance des services nationaux.
Pour les autorités, l'objectif affiché est désormais de rassurer les bénéficiaires sur la volonté de l'État d'agir concrètement en leur faveur. Balouba Lodje, directeur adjoint chargé des finances au CNPS, l'affirme.
La population vulnérable doit s'attendre à ce que la République ne les oublie. Nous mettons toutes les stratégies nécessaires pour que chaque catégorie de vulnérables soit prise en compte dans sa vie quotidienne.
Au-delà de la validation du document, le défi reste désormais sa mise en œuvre effective. Les acteurs impliqués espèrent que cette nouvelle feuille de route permettra de transformer les engagements pris en actions concrètes au bénéfice des populations les plus vulnérables.
Parlons infrastructure. Les travaux de surélévation de la route nationale numéro 1 au niveau de la cité de Kasangulo, Congo central, se poursuivent sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Ils sont exécutés par l'entreprise SIC. Et les travaux comprennent notamment la pose d'une batterie de bus au PK 22 plus 100, c'est afin d'éviter la stagnation des eaux de pluie et la détérioration répétée de la chaussée. Des détails avec Blaise Ndongala.
Sur les 510 mètres concernés par la surélévation de la chaussée à Kasangulu, il ne reste que 112 mètres en demi-chaussée qui recevront les ferraillages et les bétons, ainsi que 100 mètres de chaussée complète destinée à être raccordée à la batterie des bus de 2x1 mètre carré. Ces travaux impactent malheureusement la circulation, occasionnant de longs embouteillages dans cette partie du pays. La société civile et les habitants de Kasangulu reconnaissent les désagréments causés tout en appelant à la patience, comme l'explique une habitante de ces coins.
Pendant que ces travaux sont en train d'être réalisés, les embouteillages sont devenus monstrueux. Ces bouchons observés sur la chaussée ne sont pas en vain. Nous sommes appelés à supporter ces moments difficiles car après, nous serons satisfaits.
Du côté de l'Agence congolaise des grands travaux et de son partenaire Sopeco, société des péages du Congo, toutes les dispositions sont prises pour achever ces travaux de chaussée d'ici le 24 mai 2026. La route nationale numéro 1 dans cette partie revêt une importance majeure. À terme, sa configuration devrait évoluer vers une voie deux fois des bandes afin d'améliorer la fluidité du trafic. Parmi les solutions alternatives envisagées figure la route Djili-Mangala-Vouloulou, longue d'une vingtaine de kilomètres pour laquelle les études techniques sont déjà disponibles au niveau de l'Agence congolaise des grands travaux.
Actualité internationale.
Le commerce d'animaux sauvages au Kenya a connu une forte expansion au cours de la dernière décennie. Le nombre de reptiles élevés en captivité et exportés comme animaux de compagnie exotiques ayant été multiplié par 10 selon un rapport publié jeudi par World Animal Protection, selon africanews.fr qui le rapporte. Bien que ce commerce soit légal, 77% des espèces concernées ont vu leur population diminuer à l'état sauvage, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur viabilité.
L'invité.
Il s'agit de Jean-Michel Bunku, coordonnateur du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga Puruk. Il s'entretient avec André Katendenga Lamouloumé sur l'évolution des travaux dans le cadre justement de ce projet. Suivez.
Monsieur Jean-Michel Bunku, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
À quel niveau se trouvent les travaux dans le cadre du projet de Puruk?
Le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga poursuit comme objectif la protection des habitations qui sont ravagées par les érosions et les infrastructures publiques. Donc les routes, les chemins de fer et tout ce qui va avec, les infrastructures sociales, et centres de santé, écoles, qui sont aussi exposées par les érosions. Nous avons deux contrats en cours avec des entreprises chinoises, il s'agit de CEFEC et puis Zengui, qui sont en train de travailler sur du site pour le moment. Nous avons les travaux qui sont en train d'être menés au site de Lukonga, avec une grande érosion que nous sommes en train de combler complètement. Et il y a même un projet de pouvoir remettre la route là où il y avait l'érosion. Je crois dans 2 semaines tout au plus, nous allons combler complètement cette érosion et puis protéger les chemins de fer. À part ce site-là, nous avons 3 autres sites dans le cadre de ce premier contrat avec l'entreprise CEFEC. Il y a SNCC, prison centrale et Benamukangala. Avec l'entreprise SZTC ou Zengwei Technique Corporation, nous avons 6 sites. Sainte-Thérèse, Moussumbo, RVA, Uka, Saint-Martyr. Nous avons le site d'Nzanza.
Combien de têtes d'érosion sont prises en compte pour ces 10 sites?
Les 10 sites, tout compte fait, nous sommes autour de 40 érosions. Mais à côté des 10 sites, je dois vous annoncer aussi 13 autres sites, cette fois-là pour 70 têtes d'érosion. En ce qui concerne les 13 sites, je ne vous l'ai pas dit, vous devez savoir que nous sommes en plein processus de passation de marché. Et donc, la Banque mondiale va nous donner l'avis de non-objection au rapport d'évaluation combinée des offres techniques et financières que nous leur avons transmis. Je crois, Dieu voulant, et en tout cas, dans les 72 heures, nous allons recevoir l'avis des non-objections de la banque qui va nous permettre de lancer le processus de signature des contrats pour les 13 sites. Donc, tout au plus, 1 mois et demi au mois de juin, sinon alors début juillet, l'entreprise doit pouvoir se mobiliser et démarrer les travaux. Il y a une mise au point importante que nous devons signaler, chers journalistes. À Kananga, il y a beaucoup d'érosion. Mais le Puruk a un portefeuille de 24 sites érosifs dans un premier temps qui nous totalise 109 érosions. Pour le marché des 10 sites, les travaux sont en cours. Je dois vous avouer que nous avons eu au moins 4 mois d'intense pluie dans la ville de Kananga. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises sont suffisamment mobilisées, quand même ils sont légèrement avancés dans les travaux, mais ils ont mis un dispositif important et impressionnant pour pouvoir accélérer les travaux pendant cette saison sèche. Donc, la saison sèche ici, c'est vraiment l'occasion à ne pas rater pour pomper les travaux. Et à la sortie de la saison sèche, Nous allons évaluer avec vous le résultat.
Comment vous faites pour les personnes qui habitent les sites où vous exécutez les travaux de lutte anti-érosive?
Lorsque nos travaux ont impacté les bénéficiaires qui sont riverains au site d'érosion, le règlement de la Banque mondiale exige à ce que ces personnes-là qui sont en piété, leurs biens, ça peut être les fonciers, ça peut être le bâtisse, ça peut être les arbres fruitiers au niveau de leurs parcelles qui seront touchés par les travaux. Nous devons pouvoir les remettre dans leurs droits, leur donner les moyens pour qu'ils puissent se réinstaller ailleurs dans des conditions décentes. C'est ce que nous appelons indemnisation. À ce jour, nous avons environ 209 personnes affectées par les projets que nous avons indemnisées pour environ 1 800 000 $. Parce que ce qui nous intéresse, ou ce qui intéresse le bailleur, la Banque mondiale, c'est de pouvoir voir une personne qui était minable, qui vivait dans des conditions médiocres, avoir sa vie améliorée après l'intervention du projet public.
Monsieur Jean-Michel Bonkou, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie.
Jean-Michel Bonkou, coordonnateur du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga Puruk. Voilà qui met fin à ce journal. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté avec l'aide d'André Mongo à la technique et l'apport de Jude Mister Bilinda à la coordination. Merci à vous qui venez de nous suivre. Bon week-end.